Nous continuons la prédication que nous avons faite il y a quelque temps. Jésus, la lumière du monde. Et ce premier jour-là, nous avions dit que Jésus était une lumière, la lumière même qui éclaire. Et en dehors de lui, c'est les ténèbres. Et quand Jésus s'approche, soit par sa parole, soit par un chrétien véritable, soit par son esprit, à travers des songes, des visions, quand Jésus s'approche d'une personne, la personne a tendance à fuir. Et c'est logique, puisque cette lumière montre les défauts de la personne. Et on a, pour exemple, vous savez, les maisons, les vieilles maisons où personne ne passe, qui deviennent des repères pour les souris, les rats, les cafards. Vous savez, quand vous mettez la lumière dans ces maisons, vous voyez des départs en catastrophe. Des souris qui se faufilent pour se cacher quelque part, les cafards qui fuient. Parce que la lumière dévoile qu'ils sont là. Et ils savent qu'ils sont indésirables. Et la lumière de Dieu dévoile l'intérieur de l'homme. Et comme nous l'avions dit, cette lumière peut passer directement par la Bible, sa parole, Dieu lui-même, la parole de Dieu. Cette lumière peut venir par le Saint-Esprit. Ça vient aussi par les chrétiens, leur comportement. C'est une lumière. Et Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière a tendance à faire fuir parce qu'elle dévoile l'intérieur des gens. Elle dévoile la faute des gens. Et on a lu quelques passages qui nous ont montré qu'il y a des gens qui se croyaient être dans la lumière jusqu'au jour où ils ont rencontré la vraie lumière, qui est Jésus lui-même. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dans la lumière. Les gens qui voulaient lapider la femme adultère, la femme surprise en flagrant délit d'adultère, ces gens-là pensaient être dans la lumière jusqu'à ce que la lumière véritable qui est sans péché jette la première pierre à cette femme. Et ce jour-là, on a vu des gens fuir. Donc physiquement même, ils ont fui. Parce qu'on peut fuir spirituellement aussi en sortant des théories contre Dieu. Dieu n'existe pas. L'évolutionnisme. On sort ces théories pour essayer de fuir la vraie lumière. Parce qu'on ne veut pas qu'elle nous éclaire. Et nous allons lire un texte qu'on n'a pas lu la dernière fois, qui, dans Jean chapitre 1 et Jean chapitre 3. Nous commençons par le chapitre 1, qui confirme ce que nous avions dit la dernière fois. Jean chapitre 1, il est écrit ceci, à partir du verset 6. À partir du verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà ce qui est dit de Jésus. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette phrase-là est importante. Éclaire tout homme. Et quand Jésus parle, quand Jean parle de Jésus, il appelle la lumière. Il ne dit pas qu'une lumière, c'est la lumière même. Le reste, c'est ténèbres. Et quand c'est éclairé par la lumière, là, il y a éclairage. Je me souviens de quelqu'un qui avait eu une vision. où il était dans une maison éclairée par une ampoule ou bien un éclairage artificiel, ampoule ou tube, ou les choses qui sont sorties récemment, bon, qui ne sont plus à la mode, les halogènes, voilà. Et puis, soudain, il voit la lumière de Dieu venir. Et la lumière qui était dans la maison s'est éteinte d'elle-même. C'est pour dire que la lumière véritable, c'est la lumière de Dieu. Donc, quand elle paraît, on réalise qu'on était dans les ténèbres. Mais tant qu'elle n'est pas encore là, on a l'impression qu'on a une petite lumière, mais on n'en a pas du tout. C'est les ténèbres. Elle était dans le monde, verset 10, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Voilà ce que cette lumière, Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous allons au chapitre 3 à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà l'explication. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et la dernière fois, nous avons dit que dans les ténèbres, tous les coups sont permis. On avait imaginé un match de football dans les ténèbres. Alors, on allait voir carrément des gens prendre le ballon, mettre dans le maillot, se promener, marcher jusqu'au but adverse et poser le ballon, dire qu'ils ont marqué du coup de pied. Dans les ténèbres, tout est permis. Dans le noir, tous les chats sont gris, comme on dit. Et quand la lumière est venue, la lumière de Jésus, les gens ont fui. Ils préfèrent les ténèbres. Ils préfèrent les discours flous. Il y en a qui changent d'église parce qu'ils ne veulent pas les discours clairs. Ils veulent des discours flous dans lesquels on peut tout plonger. Donc l'interprétation est particulière à chacun. Non, la lumière est claire, elle est tranchée. Il ne faut pas fuir. C'était notre thème de la fois passée. Là, il est dit que ceux qui fuient la lumière, ceux qui fuient Jésus, ils fuient parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils veulent travailler dans un flou. Car quiconque fait le mal, verset 20, est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. On fuit la lumière. Nous le premier, moi le premier, je fuis pendant un temps la lumière. En étant païen, on savait que les chrétiens, moi du moins je savais, que ceux qui priaient Dieu, ceux qui priaient Jésus, étaient sur le bon chemin. Mais on avait peur que nos œuvres mauvaises soient mises à nu, soient dévoilées. Et on a longtemps critiqué les chrétiens pour éviter de s'approcher d'eux. On a longtemps torché avec une lampe puissante nos cousins ou oncles, pasteurs, pour voir leurs défauts. Et dire oui, mais malgré le fait qu'ils soient chrétiens, ils continuent encore à pécher, à faire de telles choses pour justifier qu'on n'ait pas envie de les rejoindre. Mais ça n'a pas marché. La lumière, quand ça t'a éclairé, tu vas être perturbé. Tu vas faire tout ce que tu veux. Elle te suivra partout. On a lu le verset 9 de Jean 1 qui dit « Cette lumière éclaire tout homme. On a beau fuir. Cette lumière, du moment qu'elle t'a éclairé un jour, elle te suivra partout. » Parce que c'est la lumière éternelle. Ce n'est pas une lumière d'un moment. Vous savez, c'est comme les gens qui veulent retarder la lecture des résultats des examens médicaux. Il sent qu'il y a un problème, peut-être le cancer, peut-être le sida. Il est parti faire les examens médicaux, mais il ne veut pas lire les résultats. Parce que les résultats vont dévoiler l'intérieur du sang et l'intérieur du corps. Ils ne veulent pas lire, l'enveloppe est restée là. Mais est-ce que c'est une solution? Ces gens-là ne font que retarder le diagnostic dans leur cœur. Ils ne font que retarder, mais le diagnostic est là déjà. Ce n'est pas en fouillant la lumière que tu changes la situation. Au fait, ils retardent deux choses. Ils ne font que... Plutôt, ils retardent une chose. Pour le cas des examens médicaux, ils retardent le jour de leur guérison. Or, en ouvrant l'enveloppe, ils vont savoir qu'ils sont malades et ils vont prendre les précautions, ils vont prendre les mesures qu'il faut pour se laisser guérir par les médecins. Mais comme ils ne veulent pas affronter la vérité, comme on a dit, les gens qui ne veulent pas affronter la vérité fuient la lumière. On peut être dans le péché, mais vouloir quand même affronter la vérité pour son salut. Mais il y en a qui refusent et ils ne font que retarder le jour de leur guérison. Pire encore, ils ne font que empirer leur situation. Ça veut dire que la maladie qui peut-être n'avait pas encore atteint un stade X, mais à cause du retard mis à lire les résultats pour aller se faire soigner, la maladie ne fait que progresser. Et donc ceux qui fuient Jésus en prétextant qu'ils ne sont pas prêts, en prétextant qu'ils sont encore esclaves des choses de la terre, en prétextant qu'ils sont encore liés à un copain ou à un homme ou à une femme et que c'est difficile de s'en débarrasser, en prétextant toutes sortes de choses ou bien en disant que nous sommes dans une époque où c'est difficile d'être correct, ils ne font que retarder le jour de leur salut et ils ne font qu'empirer leur situation dans le péché. Et plus le temps passe, plus ça va devenir pour eux difficile de venir à la lumière. Parce qu'il y a un endurcissement du cœur qui se fait. Mais la lumière, quand on la fouille aujourd'hui, elle nous retrouvera un jour. Et vous savez c'est quel jour? Lisons l'Apocalypse 20, au chapitre 11, au verset 11. Apocalypse 20, 11. Comme c'est écrit dans Nombre 32, 23, « Ton péché te retrouvera. » Donc, tôt ou tard, tu feras face à la lumière qui s'imposera. Pour le moment, la lumière ne s'impose pas sur toi. Elle se propose à toi. Viendra un jour, elle s'imposera. Donc, tu ne pourras pas fuir. Tu seras comme lié face à la lumière, obligé de subir la lumière et d'être dévoilé et d'être jugé. Verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc. » Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, tôt ou tard, cette lumière rattrapera tout le monde. Un jour, même les gens qui sont morts, tout le monde ressuscitera pour faire face au trône blanc. C'est pourquoi on l'appelle le trône blanc, le trône de la lumière, de la vérité, de la pureté. Et ce jour-là, personne ne pourra échapper. Mais ça sera pour le jugement. Alors qu'aujourd'hui, la lumière, c'est notre prédication d'aujourd'hui, elle vient pour te sauver, la lumière. Quand elle t'éclaire, ce n'est pas pour te juger, c'est pour te sauver. On a lu ça dans Jean 3, 17. Il n'est pas venu condamner Jésus, il est venu sauver. Dans sa première venue, c'est pour sauver. La lumière, c'est pour te sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rester. Pendant que la lumière t'a éclairé, ne fuis pas. Ne te crée pas de barrière. Reste sous la lumière. Nous allons relire les mêmes textes que nous avions lus la dernière fois. Reprenons Jean 8. Jean 8. Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur !» Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est là que Jésus lui-même, il éclate de louanges pour lui-même. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Vous voyez comment j'ai fait fouiller les pharisiens là. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Je suis la lumière du monde. Les religieux ont fui. Ceux qui prétendaient être honnêtes face à la vraie lumière, ils ont fui. Vous savez quelle réponse on a souvent ? Tu me juges. Dès que les gens sont face à la vraie lumière, oh, tu me juges. Oh. Mais il n'est pas interdit de juger. Hein. Ce qui est interdit, c'est de condamner. Le jugement de condamnation, c'est-à-dire sortir une sentence. Donc, comme le juge au tribunal, quand il donne une sentence, c'est ce jugement-là qui est interdit. Nous, on ne peut pas condamner. Mais on peut dire que ce que quelqu'un fait est mauvais. C'est écrit dans Jean 7. Donc, on en a discuté ce problème de jugement. Il est écrit dans Jean 7, 24, je crois. On doit juger selon la vérité. Donc, dire que quelque chose est mauvais, ce n'est pas mauvais, c'est le discernement. Au contraire, comment on va savoir différencier les bonnes choses des mauvaises choses si on ne sait pas dire ce qui est mauvais, ce qui est bon. Et les gens, quand ils sont face à la lumière, tu me juges. Ah, c'est toi qui es spirituel, vas-y alors. Oh. Ne fuis pas la lumière, reste sous la lumière. Il y en a qui vont dire, toi, tu ne connais pas les difficultés que j'ai connues dans ma vie. Bien-aimés, nous tous, l'humanité entière a connu des difficultés. Les Noirs vont dire, on a souffert de l'esclavage, mais bien aimé, l'esclavage n'a pas commencé avec les Noirs. Ça a commencé en Europe, entre Blancs. Ça a commencé, c'était dans le monde entier, l'esclavage a toujours été. Les Juifs aussi vont dire, il y a 6 millions qui ont été tués. Mais les Russes vous diront, bien aimé, il faut connaître l'histoire. Les Russes vous diront aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu environ, sur 55 millions de morts, 22 millions, c'était dans l'URSS. Vous imaginez 22 millions de personnes mourir. Est-ce qu'il y a eu 22 millions de Noirs qui sont morts? Bien aimé, tout le monde a souffert. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, j'ai souffert. Une race qui va dire, j'ai souffert. Toutes les races ont souffert à cause du péché. On peut retrouver cela. Bien aimé, on a entendu des témoignages. Pourquoi les Français aujourd'hui sont économes? À cause de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a qui ont mangé du pain jeté dans les caniveaux. Vous vous rendez compte de la pluie. Il a plu sur le pain et le lendemain, quelqu'un mange ça. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un conserver les cornflakes dans la cave, ce n'est pas pour rien. Ils ont été traumatisés par ça. Tout le monde a souffert. Quand vous voyez les Allemands dominer dans ce pays, c'était de la souffrance. Prendre les femmes d'autrui, c'était de la souffrance. Tout le monde a souffert. Quand on était petit, peut-être que tu souffres, tu as 2 ans, mais tu ne peux pas parler. Vous imaginez? Tout le monde a galéré. Tu as 1 an et demi, tu souffres, tu veux te gratter quelque part, mais tu ne peux pas dire « je veux me gratter ». Donc tu subis comme ça. Nous tous, on a souffert à cause du péché. Il n'y a pas d'excuse. Oh, tu ne connais pas ma vie. Hein? Si aujourd'hui je vole, il faut savoir. Mais non, il n'y a pas de raison. Oui, mais tout le monde vole. Oui, mais tout le monde vole. Mais Jésus ne vole pas. Il n'a jamais volé. C'est la lumière de la vie. Il n'y a pas d'excuse. Et les gens, face à cette lumière, ils fuient. Il fuit. Mais cette lumière ne veut pas te détruire. Elle veut te sauver. Cette femme n'a pas fui. Les autres ont fui. Vous voyez la différence? Mais la personne qui semblait la plus mauvaise, elle n'a pas fui. Parce que pourquoi fuir? Est-ce que ça va faire qu'on devienne bon? On va devenir de plus en plus mauvais en fouillant la lumière. Il faut rester là, dire à la lumière, « Lumière, maintenant, qu'est-ce que tu fais de moi ?» La lumière va te dire, « Moi, je suis la lumière qui sauve. Je ne suis pas venu te condamner. » Bien-aimé, nous tous, quand on a compris ça, on a dit, « Maintenant, perdu du temps. » Moi, j'ai dit toujours, j'aurais dû me convertir à 10 ans. J'ai perdu mon temps à fuir la lumière, refusant que mes œuvres soient dévoilées. Mais quand Jésus t'éclaire, c'est fini. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple des ténèbres qu'il y a dans le monde. Vous savez que quels sont les deux peuples qui se combattent le plus dans le monde aujourd'hui? C'est le peuple arabe et le peuple juif. Et avec qui? Avec toute l'humanité derrière l'un ou l'autre pour essayer toujours d'attiser le feu. Mais en réalité, bien-aimé, regardez la lumière comment ça éclaire. Hein. En réalité, de tous les peuples du monde, c'est les deux peuples les plus frères. Ils ont le même papa, Abraham. C'est le seul peuple qui connaissent leur papa commun, Abraham. Mais c'est le peuple qui se bat le plus. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est les ténèbres et tout le monde veut attiser. Mais quand Jésus-Christ vient dans le cœur d'un arabe, il vient dans le cœur d'un juif, les deux prient ensemble. Voilà la lumière du monde. C'est la lumière de la vie. Ce n'est pas la lumière de la destruction. Jésus-Christ ne vient pas avec la lumière pour dire « Arabes, vous êtes fous, vous avez des problèmes. Vous les Juifs, vous êtes égoïstes. » Non, Jésus dit « Chaque homme a besoin de moi. Je suis venu sauver. » Et quand, c'est rigolo, vous allez voir, quand il y a les négociations entre Juifs et Arabes, ils sont en colère les deux camps. Ils se détestent, mais ils négocient. Mais quand vous voyez les chrétiens arabes et les juifs prier, ils s'embrassent. Voilà. Ils sont à l'aise. Il n'y a pas de négociation. Ils sont frères et sœurs. Au moins, eux, ils se rendent compte finalement. Mais Pourquoi on se battait, on se bat? Après tout, on est les frères. Vous savez, si vous, moi j'ai fait le Maroc, j'ai fait Israël, mais il y a beaucoup, c'est comme si c'était le même pays. Même dans la langue, il y a les mêmes mots. Quatre en arabe, c'est la même chose que quatre en hébreu. C'est les mêmes mots. Mais le diable a réussi par la puissance des ténèbres à les rendre ennemis. C'est ça la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres va te faire croire quelque chose comme étant vrai alors qu'elle est fausse. Alors que c'est des frères, on les a rendus ennemis. Qui est plus proche des Arabes? Est-ce que c'est les Noirs? Non. Est-ce que c'est les Blancs? Non. Est-ce que c'est les Indiens? Non. C'est les Juifs. Qui est plus proche des Juifs? C'est les Arabes. Par le sang, s'il vous plaît. Par le sang. Même papa Abraham. Mais voilà la puissance des ténèbres. Je me souviens quand l'iPad était sorti, j'avais l'impression, j'avais l'impression que si je n'en ai pas, je suis comme amputé d'une jambe, bien-aimé. Je suis parti, j'avais quelque chose, je suis parti à Darty, c'était déjà fini. Je pars à tel endroit, Fnac, c'est déjà fini. Et puis on me met la pression, il faut acheter un aspirateur, l'argent diminue. L'argent diminue. Finalement, après un mois, j'ai dit, mais je n'en avais pas besoin. Mais quand c'était sorti, j'avais l'impression que si je n'ai pas ça, je manque une jambe. Ça, c'est le diable. Il te fait croire que si tu n'as pas ça, tu n'es rien, tu as un problème, tu rates quelque chose. Mais finalement, après un mois, quand j'ai fini par ne pas l'avoir, je me suis dit, mais je n'en avais pas besoin. On m'a fait croire que j'en avais besoin. Le diable te fait croire que tu es esclave et que tu n'as pas le choix. C'est faux. Il te fait croire. Jésus va t'ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte, mais je n'en ai pas besoin. Le diable te fait croire qu'il faut que tu te venges. L'autre a été trop impoli, il a exagéré. Mais Jésus te dit, pardonne. Et quand tu pardonnes, tu te rends compte, mais oui, mais j'étais dans la bêtise. J'ai failli faire des grosses bêtises. Qu'est-ce que ça a réglé, toutes les guerres, Israël et les Arabes? Qu'est-ce que ça a réglé? Est-ce que les Arabes ont obtenu la terre? Non, ils n'ont pas obtenu. Est-ce qu'Israël a obtenu la paix? Non. Mais il y a un seul endroit où il y a la paix, chez le chrétien arabe et chez le chrétien juif. Eux, ils vivent ensemble, ils prient ensemble. Ils ont le même sort. Et ils sont persécutés par les deux communautés. Mais ils sont frères. Il y a même un chrétien arabe et un chrétien juif qui passent le monde entier en train de témoigner de Jésus-Christ. Ils vivent ensemble pour dire que Jésus-Christ est la solution. C'est la vie. Le diable va te faire croire que tu as besoin d'argent alors que tu n'en as pas besoin. Il va te faire croire que tu as besoin de mentir. Alors qu'au contraire, si tu dis la vérité, les choses vont être résolues positivement et tu es tranquille et dans le cœur et extérieurement. Beaucoup de gens ont caché les choses, mais ils n'ont fait que retarder et empirer leur position. Ils ont retardé le jour du jugement, mais ils ont empiré leur position. Dieu veut qu'on vienne à la lumière. La lumière t'éclaire, tu te rends compte que tu étais fou, tu n'as rien obtenu. J'ai souvent donné mon témoignage quand j'étais étudiant. J'avais un ami avec qui nous partageions l'appartement, chacun sa chambre, et puis on avait la cuisine, la salle de bain, les lieux communs. Et on avait des tours de ménage et des tours de cuisine. Mais quand arrivait son tour, il ne voulait jamais faire, surtout la cuisine et surtout le poisson. Et comme nous étions des étudiants, le poisson était l'aliment le moins cher, on préparait souvent le poisson. Et arrivé à son tour, il ne voulait pas faire. Et moi, je venais de me convertir. Et comme c'était moi le responsable de la gestion de tout ça, je m'énervais sur lui. Il disait, mais tu vois, toi, un frère, tu t'énerves. Lui, il était païen. Moi, je dis, mais ce n'est pas parce que je suis chrétien que tu vas me marcher sur les pieds. Mais ça n'a rien résolu. Et quand je rentrais dans ma chambre tout seul, j'étais honteux. Je disais, ah, je n'ai pas montré l'exemple. Mais dans mon cœur, je disais, j'ai raison. En plus, c'est moi le responsable de ça. Les gens vont me demander de compte. Donc, il faut qu'il fasse à son tour. Et ça a traîné, ça a traîné. Et puis, un jour, j'ai avoué que j'avais échoué. Vous savez, c'est ça, la lumière. La lumière va te montrer la vraie réalité de sa situation. Tu as échoué. Comme ces pharisiens-là qui venaient pour lapider la femme. La lumière leur a montré qu'eux-mêmes, ils devaient être lapidés. C'est pourquoi ils ont fui, non? Ils se sont rendus compte, mais si, donc, en quelque sorte, nous tous, on doit être lapidés. Allez, go, on ne sait jamais, un ange va venir nous lapider ici. Ils ont fui. La lumière m'a éclairé. J'ai dit non. Si dans mon cœur, il y a un malaise après les échanges avec le frère, avec l'ami, il y a un problème. Je ne suis pas heureux. Même si j'ai raison, je ne suis pas heureux. Beaucoup de gens ont fait des choses en se disant « j'ai raison », mais ils ne sont quand même pas heureux. Tu as raison, mais tu n'es pas heureux. Pourquoi? Il y a un problème. Comme notre frère Richard Rembrandt disait qu'il avait eu une discussion avec un juif. Il a gagné dans la discussion. Lui-même était juif, bon, juif chrétien. Mais il a parlé à Jésus, à un juif, et il a cassé les arguments de ce juif-là. Il a dit, j'ai gagné dans la discussion, mais je n'étais pas heureux puisque le monsieur ne s'était pas converti, malgré tout. Ce n'est pas gagner dans une discussion qui compte, c'est que le cœur de quelqu'un soit touché. Même si on semble perdre dans une discussion, vaut mieux perdre et que le cœur de la personne reste dans un travail, plutôt que gagner, être fier, et la personne n'est même pas touchée. Et j'ai fini par capituler en disant, Seigneur Jésus, j'ai tort. Vous savez, c'est ça la lumière. Jusqu'à ce que tu acceptes. J'ai tort. J'ai tort de réagir ainsi. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Vous savez, tant qu'on fuit la lumière, on ne réclame pas de l'aide. Mais le jour où on accepte de subir la lumière qui sauve, on finit par dire, Seigneur, aide-moi alors. Et quand j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi alors. Quand j'ai accepté que la lumière m'éclaire, me dise que j'avais tort, j'ai fini par dire, alors aide-moi. Et j'ai pris la Bible. Premier verset, c'est écrit, ne résistez pas aux méchants. Bien-aimé, quand on dit que la Bible, la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est vraiment la lumière. Hein? C'est vraiment la lumière. Parce que quand j'ai lu ces versets-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait une lumière qui est entrée dans ma vie. Je dis, mais c'était ça, ce n'était que ça là, la solution. J'ai dit, d'accord, on attend le prochain tour. Le prochain tour, j'ai dit, mais Alain, c'est ton tour de... C'était le poisson. C'est ton tour de... J'ai déjà acheté le poisson, maintenant c'est ton tour de laver, de frire tout ça, de faire la sauce. Oh frère, moi je suis fatigué, hein. Il m'a dit, mais c'est ton tour. Les autres ont préparé, tu as mangé. Oh frère, il m'est tapé à l'épaule. Frère, je suis fatigué, comme d'habitude. J'ai dit, bon, Alain, je vais cuisiner à ta place. Et dorénavant, à chaque fois que tu refuseras, moi je le ferai à ta place. Bien-aimé, il faut voir maintenant les retournements des situations. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Non, moi-même, je vais cuisiner. Moi, je dis, mais puisque tu ne voulais pas... Non, je vais le faire. Il a fait lui-même et il n'a jamais plus fait de problème. Et aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, oint puissamment, qui travaille sérieusement pour Dieu au Maroc, bien-aimé. C'est ça la réalité. Quand on accepte la lumière, elle nous sauve. Mais au début, elle nous fait honte parce qu'elle dévoile qu'on a tort. On a tort. Elle nous montre qu'on n'a pas besoin de ce qu'on accuse les humains de nous priver. Souvent, on fait beaucoup de mauvaises choses en accusant les autres de nous en priver. On dit, mais ils me privent de ça, elles me privent de ceci. Ils ne m'ont pas donné ma part. Ils ne m'ont pas donné le poste qu'il fallait pour moi. Les parents ne font pas ce que j'aimerais qu'ils fassent. Et on ne fait qu'accuser. Mais quand la lumière t'éclaire, la lumière te dit, tu as tort, parce que tu n'as même pas besoin de tout ça. C'est le diable qui te fait croire ça. Réveille-toi. Qu'est-ce que nous préférons, bien-aimés? Être riche et esclave de la cocaïne et de la cigarette et mourir comme Jean-Luc Delarue, ou ne pas être riche, mais être en même temps libre de l'alcool, de la drogue, de la débauche, toutes ces choses qui créent la dépense. Moi, je préfère être libre. Libre et dépendre de Dieu, plutôt que riche et dépendre des plaisirs de la terre qui finiront par te tuer un jour. C'est ça la réalité. La lumière est claire. Quand on dit aux gens le concubinage, c'est pas bon. Vous exagérez, on sème. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont ceux qui s'aiment. Il y a des gens qui aiment même quatre personnes à la fois. C'est possible. Quand la lumière est claire comme ça, au lieu de dire, mais c'est vrai Seigneur, mais aide-moi, si je reconnais mon tort, les gens disent, ah non, ils exagèrent, nous on s'aime. Hein. Moi je crois. Non, il faut suivre ce qui est écrit, ils disent, moi je crois, moi je pense. Mais toi tu es qui? Avant que tu existes, on croyait en Dieu. Quand tu mourras, on croira en Dieu. Dieu dit que ce n'est pas bon. Non, mais moi, je pense. Toi, tu es qui? Et le jour où on plaque la personne, pas moyen de récupération. Parce que partout où tu iras te plaindre, mon copain ou ma copine m'a plaqué, les gens diront, bon, il te reste à trouver un autre. Mais quand c'est ton mari ou ta femme, les gens diront, ben, on va essayer de reconstruire. Parce que le mariage est un lien à vie. Les gens vont mettre leurs efforts dans la prière, dans la négociation pour vous remettre ensemble. Mais quand c'était la copine ou le copain, quand tu pleurniches, les gens disent, bon, un de perdu dit de retrouver. Alors que toi, tu souffres, tu veux la même personne. Les gens disent, mais non, mais c'était que ton concubin. Hein, après tout. Mais quand c'est le mariage, les gens savent que c'est sérieux. Et tout le monde va s'y mettre pour reconstruire. Quand la lumière est claire, au début, on n'en veut pas. On croit qu'elle est venue nous condamner, nous enlever les joies de ce monde. En réalité, elle est venue nous sauver, nous révéler que ce monde n'est rien du tout. Ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Beaucoup sont en train de pleurer d'avoir cédé à ce monde pendant des années. Beaucoup pleurent. Bien-aimés, nous tous, nous avons le même corps, un corps de péché. Nous tous, sans exception. Mais il y a deux camps. Il y a ceux-là qui reconnaissent que oui, nous avons un corps de péché et nous n'en voulons pas de ce système-là. Dieu, sauve-nous par Jésus. Aide-nous. Mais il y en a qui sentent bien et qui fuient la lumière parce qu'ils sentent bien que la lumière montre que le corps qu'ils ont, c'est un corps de péché. Alors il se trouve des excuses. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 3. Ceux-là, ils sont jugés parce que la lumière les a éclairés et ils ont trouvé des excuses. Ils fuient la lumière, ils trouvent des excuses. Au lieu de reconnaître pour se laisser sauver, ils sont comme le malade qui fuit les résultats des examens. Donc il va continuer à périr au lieu d'accepter les résultats pour se laisser guérir par les médecins. Restons dans la lumière. La lumière nous embête tous. Même nous qui sommes chrétiens, parfois elle nous embête. Mais reste, la solution viendra du fait que tu restes toujours dans la lumière. Au début, elle va t'embêter, mais à la fin, elle finit par te sauver. Mais quand tu la fuis par des excuses, par toutes sortes de stratégies, elle revient toujours. Et tu ne fais qu'empirer ta situation dans le mal. L'autre verset qu'on avait lu, dont l'autre passage qu'on avait lu, c'est dans Actes 9. Là, nous venons de voir cette femme qui, elle est restée exposée à la lumière et elle a été transformée. Il y en a qui ont fui et ils sont restés pécheurs. Ils sont restés mauvais. Parce que leur orgueil refusait d'être torché, d'être éclairé par la lumière. C'est ça le malheur. Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Les amis de Paul, ils ont vu la lumière. Mais ils sont restés froids par rapport à cette lumière. Ils sont restés étrangers par rapport à cette lumière. Paul a vu la lumière qui l'a fait tomber. Il est resté sous la lumière. Parce qu'il a reconnu que c'était le Seigneur. Il a dit, que dois-je faire? Restons sous la lumière. Nous avons tous des corps de péché. Mais restons sous la lumière pour nous laisser sauver par cette lumière-là. Ne te crée pas des faux raisonnements qui tuent la foi. Ne te crée pas des faux raisonnements en accusant les autres, en cherchant les erreurs des autres. La lumière, elle est pour toi. Ensuite, tu pourras éclairer les autres. D'abord, laisse la lumière t'éclairer toi-même. Accepte la vérité que la lumière est en train de dévoiler. Accepte. Parce que tant que tu n'acceptes pas, le mal continue à te ronger. Accepte que tu as tort. Paul a reconnu qu'il avait tort. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire? Et le Seigneur a fait de Paul son serviteur. Vous savez, quand la lumière t'éclaire, l'intelligence change. Romains 12 dit que nous sommes, notre intelligence est renouvelée. Un disciple d'Élisée disait à Élisée, mais j'ai peur, on est entouré de soldats. Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voit la réalité. Et quand il a ouvert les yeux, c'est le Seigneur a ouvert les yeux de son serviteur, cet homme a vu que la vallée, la montagne était remplie de chars et de cavaliers de feu, plus nombreux que les soldats syriens. Il s'est calmé. Hein. Il a arrêté de dire que le Seigneur nous sauve. Mais le Seigneur était déjà là. Mais il manquait de lumière. Il était dans les ténèbres. Quand Dieu ouvre les yeux, il se rend compte que mais finalement, mais c'est nous qui sommes bien, bien-aimés. Jésus est le Sauveur. C'est la lumière qui sauve. C'est la lumière qui éclaire, mais après qui guérit, qui apaise. Et on est tranquille. On a un chant qui dit « Quel Sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. » La lumière, vous savez, c'est Jésus lui-même. Et donc au début, quand la lumière, elle vient, on a tendance à regarder à nous et à dire « je suis mauvais, c'est une bonne chose ». Mais après, quand on y demeure, on ne fuit pas, cette lumière nous fait tourner vers la source de la lumière. C'est qui? Au début, on est effrayé par nos péchés que nous constatons quand la lumière nous éclaire. Mais quand on reste sous la lumière, on réalise notre état à un moment donné, puisqu'on n'a pas fui. La deuxième étape, c'est qu'on se tourne vers la source de la lumière. Mais c'est qui? Et c'est là qu'on entend la voix du Sauveur. Il dit, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et on saute de joie qu'il nous ait trouvés. C'est ce qui se passe. Il dit, oh, il m'a trouvé. Parce que tout homme est embêté. Tout homme sait que ce monde n'est pas ce qu'il faut. Pour tout homme, ce n'est pas ce qu'il faut. Il y a trop d'imperfections, trop de troubles. Ce n'est pas ce qu'il faut. Même ceux qui se sont enrichis savent que ce n'est pas ce qu'il faut. Mais nous, on est tranquille en France, mais Depardieu a fui. Hein? Imaginez quelqu'un qui est obligé de déménager. Est-ce que toi, tu as déménagé à cause du fisc? Tu n'as pas déménagé, mais Depardieu a déménagé. Pourtant, il est peut-être 10 000 fois plus riche que toi. Mais lui, il a fui parce qu'il n'a pas la lumière. Amen. Les ténèbres te feront fuir. Mais la lumière te dit, je pourvoirai à tes besoins. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la montée du prix de l'essence. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie gratuitement. C'est ça la lumière du monde, bien-aimé. C'est ça la lumière. Au début, nous avons peur. On dit, aïe, je suis perdu. Mais après, on se dit, mais c'est qui? Mais c'est Jésus, le Sauveur. Il va t'enseigner qui il est. Il est venu sauver des gens comme Zachée. Il est venu délivrer les démoniaques de Gadara. C'est ça sa mission. Il te dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour des gens comme vous, pour des mauvais comme vous, pour vous sortir des ténèbres, vous amener à la lumière de mon papa. Et on se dit, mais merci lumière de m'avoir trouvé. J'allais fuir bêtement. Bien-aimé, ne fuis pas bêtement. Reste sous la lumière. Dis au Seigneur ton problème. Dis au Seigneur que tu m'as dévoilé, Seigneur. Je sais que j'ai tort, mais sauve-moi alors. Ne persévère pas dans le mal. Même les gens du monde le disent. Persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Ce n'est pas les chrétiens, les gens du monde. Ne persévère pas. C'est le moment de dire, le Seigneur m'a éclairé. Je suis fautif, mais lui, c'est le Sauveur. J'ai vu qui il était. C'est la lumière du monde qui éclaire pour sauver. Nous clôturons avec ce passage de Luc 7, 36. Parce que ce que beaucoup oublient, pour vraiment ressentir la joie du salut, il faut avoir été sauvé de mauvaises choses. Celui qui n'est pas sauvé, qui se croyait bon, il se dit, bon, comme certains, ah ben quand j'ai entendu l'évangile, moi j'étais déjà comme ça avant. C'est des gens, vous allez les trouver toujours orgueilleux, inconvertis, parce qu'ils n'ont pas été sauvés. Mais c'est celui qui était mauvais qui sera dans la joie, dans la reconnaissance, parce que Dieu l'a sauvé. Alors acceptons la lumière qui nous dit qu'on est mauvais. Peu importe que notre papa était pasteur ou bien notre famille était chrétienne. Acceptons la lumière qui nous dit qu'on est mauvais. Nous tous, c'est écrit au verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. La lumière qui sauve. Cette femme, une prostituée, n'a pas eu honte. Elle s'est dit de toute façon, tout le village le sait, toute la ville le sait. Je suis une prostituée. Qu'ai-je encore à cacher? Je vais dans la lumière. La lumière, c'est vrai, va encore éclairer, va encore montrer d'autres défauts en dehors de la prostitution. Mais la lumière va aussi me sauver. Elle a affronté, vous savez, à cette époque-là, entrer chez des pharisiens, toi une femme prostituée. Mais on risque de te tuer même avant de franchir la porte. Mais elle savait que la lumière du monde était là. Personne ne va me toucher. Parce que je vais moi-même à la lumière. Bien-aimé, c'est pour nous dire ceci. Quand toi-même, tu te déplaces vers Dieu, la puissance du diable tombe dans l'eau. C'est fini. N'attends pas toujours que Dieu court vers toi. Quand le Saint-Esprit commence à te perturber, toi-même va vers lui. Va lui dire. Cette femme, en temps normal, elle n'aurait même pas osé entrer là. On ne l'aurait même pas laissé non plus entrer. Parce qu'elle a eu le temps de faire beaucoup de choses. Pourquoi on l'a laissé faire? Parce que tous ces gens-là reconnaissaient quand même que Jésus était le maître. Donc on ne peut rien faire sans le consulter. Donc même si c'est moi qui l'ai invité, mais c'est quand même le maître, quoi. Donc Simon, en invitant Jésus, reconnaissait dans son cœur que ce type, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Donc là, cette femme est en train de faire des choses avec lui. Je ne peux pas intervenir. Laissons voir qu'est-ce qui se passe là. Mais Jésus lui a dit, mais Simon, tu as ce comportement-là parce que tu te considères bon. C'est pourquoi tu ne viens pas à la lumière. Si tu es vraiment simple, tu viens à la lumière, tu constateras que tu es mauvais. Et toi aussi, tu vas m'aimer comme cette femme m'a aimé. Parce que tu m'as traité comme juste un invité important. Mais même pas comme un invité important parce que tu ne t'es pas occupé de moi. Tu m'as traité comme peut-être un rival. Mais regarde cette femme, comment elle me traite. Elle me traite comme son sauveur. Et pour beaucoup de gens, Jésus-Christ est leur rival. Il les empêche de vivre. Il les empêche de faire ce qu'ils veulent. Il les empêche d'aller dans les boîtes de nuit. Il les empêche de fuir l'école. Il les empêche de faire des bêtises. Et Jésus est devenu un rival pour eux. Alors il les regarde de haut. Mais Jésus n'est pas ton rival, il est ton sauveur. Il faut capituler, comme cette femme, dire j'irai vers lui. Qu'est-ce que le monde t'a apporté? De l'argent, mais il y a des gens qui ont eu l'argent avant toi, qui se sont suicidés. Le pouvoir, mais il y a des gens qui ont eu le pouvoir avant toi. Moi, je rigole souvent quand, vous savez, même l'intelligence humaine nous montre des choses que les gens qui sont voilés par le diable ne voient pas. Même un enfant de 8 ans, si on lui apprend l'histoire, quand il voit les dictateurs qui ont fait de la magie, qui sont devenus dictateurs, qui ont eu le pouvoir, comment ils ont fini? Les gens qui sont entrés dans la franc-maçonnerie, comment ils ont fini? Tous ces gens-là, quand on le voit, ce qu'est devenu Jacques Chirac aujourd'hui, normalement, un homme intelligent doit se dire que ce n'est pas la voie à suivre. Parce que ça amène à la destruction. Ça amène à la destruction. Quand on voit les Lady Diana, comment elles ont fini? Ce n'est pas la voie à suivre. Mais Le diable a aveuglé l'intelligence des gens. 2 Corinthiens 4 le dit. Il a aveuglé leur intelligence. Ils ne voient plus les choses élémentaires que vous et moi pouvons constater. Que l'argent n'est pas la solution. Récemment, il y a une année, on avait attrapé un footballeur français qui devait avoir un salaire de 100 000 euros par mois, mais qui faisait encore un trafic de drogue en Angleterre. Vous imaginez des salaires de 100 000 euros par mois, mais il faut encore du trafic de drogue. Donc c'est clair que l'argent n'est pas la solution. Mais pourquoi s'entêter? Restons dans la lumière. Laissons la lumière nous convaincre de notre erreur. Et quand on sera sauvé, on sera renouvelé, reconnaissant. Plus que les orgueilleux qui pensent qu'ils étaient déjà dans la lumière avant la lumière. C'est impossible. Et ils n'ont pas de joie. Ils sont crispés parce qu'ils se croient bons. Ils se croient justes. Mais celui qui sait que le Seigneur l'a sauvé des ténèbres, lui, il est content, il est joyeux. Il verse du parfum sur le Seigneur. Il proclame Dieu parce qu'il sait d'où il a été tiré. Jésus est la lumière. Il est clair par sa parole, la Bible. Il est clair par le comportement des véritables chrétiens. Il est clair par le Saint-Esprit dans le cœur. Aujourd'hui, si on fuit cette lumière, sachant qu'elle nous rattrapera à la fin toujours, mais ça sera pour le jugement. Alors il ne faut pas la fuir, il faut céder et venir à Jésus-Christ. Pour être sauvé, il n'est pas venu condamner. Tel que tu es, viens au Seigneur pour être sauvé. Nous allons chanter tel que je suis, sans rien à moi. Pendant ce temps, si Dieu te convainc de te laisser sauver par lui aujourd'hui, tu pourras avancer devant et nous allons prier pour ton salut aujourd'hui. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Nous lançons encore l'appel pour tous ceux qui veulent être sauvés par Jésus aujourd'hui. Que la lumière ne te fasse pas fuir. Viens confesser, viens demander pardon à Dieu. Et aujourd'hui, une nouvelle vie va commencer avec le Seigneur. Il s'occupera de te donner la victoire chaque jour sur l'égoïsme, sur la convoitise, sur le péché, sur le mensonge. Il commencera une nouvelle vie avec toi. Il est venu pour sauver. Tel que je sans rien à moi, je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi
m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens
bien vacillant,
tel que je suis, bien vacillant, en poids au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je
Vous allez dire comme moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais mon tort. Je suis fautif. Je te demande pardon. Purifie-moi par ton sang. Et fais de moi une nouvelle création. Libérée de ce monde, du péché et du mal. Remplis-moi par ton esprit, afin que je te livre tout. Et c'est ce que je fais maintenant. Je te livre tout. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je viens prier pour mes bien-aimés, qu'il y ait une délivrance totale par rapport à ce monde, par rapport au péché, par rapport au faux raisonnement, qui est une délivrance totale. Tout ce qui est des ténèbres lâche prise dans leur vie. Parce que la lumière éclaire et fait fuir les ténèbres. Et amène les gens à toi, ô Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie de mes bien-aimés, qui soient mis à part pour te servir dans toute la vérité à partir d'aujourd'hui. Et que toutes les chaînes de leur vie soient brisées au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, pour ta fidélité. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Attaché à la croix pour moi.
Quel
sauveur merveilleux. Je possède.